Suno Assurance, célébrez nos 20 ans d'assurance. Découvrez votre profil en ligne sur monbonprofil.com après avoir suivi votre magazine Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Diaran Biaï.
Bonjour à toutes et à tous. Nous vivons de plus en plus dans une société stressante, voire angoissante. Peur de l'avenir, peur pour ses enfants, peur de ne pas atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Ces inquiétudes peuvent gâcher le bien-être au quotidien. Il existe pourtant des moyens pour se protéger contre la peur ou les angoisses. Savoir gérer son anxiété, c'est avant tout comprendre les manifestations physiques provoquées par le stress, car oui, l'anxiété est souvent liée au stress. Et nous allons voir qu'il est possible d'apaiser et de neutraliser son anxiété au fil du temps. Il est même possible de parvenir à les éviter. Respiration, sport, du temps pour soi. L'anxiété n'est pas une fatalité. Quelques méthodes naturelles permettent de la gérer et dépasser les blocages qu'elle peut déclencher. Comment se protéger de l'anxiété? Comment se préserver de l'intérieur? Comment se ressourcer, se renforcer? Avec nous, le docteur Jean-Luc Duché. Bonjour docteur.
Bonjour.
Vous êtes médecin psychiatre à Clermont-Ferrand, clinicien, psychothérapeute, enseignant, chercheur dans le champ de la dépression et de l'anxiété, et également auteur de l'ouvrage « Vaincre son anxiété par soi-même » aux éditions Odile Jacob. Nous retrouverons en Tunisie professeur Raja Laban, psychiatre, professeur de psychiatrie à la faculté de médecine de Tunis en Tunisie. Elle est également ancienne présidente de la Société tunisienne de psychiatrie. En fin d'émission, focus sur le dernier rapport sur le paludisme de l'OMS avec le docteur Pascal Ringwald, coordinateur de l'unité de la résistance au département paludisme de l'OMS. Et nous ferons également un point sur le congrès de la Société d'anesthésie et réanimation d'Afrique francophone, la SARAF, qui se tient à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Nous en parlons avec le docteur Philippe Mavongou, président du comité équipement de la Fédération internationale des sociétés d'anesthésistes. Et n'hésitez pas à nous appeler le numéro de Priorité Santé 33 1 84 22 75 75.
Priorité Santé sur RFI.
Docteur Jean-Luc Duché, tout un livre sur l'anxiété. Racontez-nous un peu pourquoi vous avez rédigé ce livre qui s'appelle « Vaincre son anxiété par soi-même ».
Une des raisons, c'est essentiellement qu'on trouve des livres parlant de l'anxiété de tel type ou de tel type, qui sont très bien faits, mais on ne trouve quasiment pas de livres parlant de toutes les formes d'anxiété. Or, en fait, on a tous un peu une tendance à avoir certaines formes d'anxiété à minima, et c'était un peu pour tous ces gens qu'il me semblait intéressant de pouvoir aider à travers des conseils et déjà la compréhension de leurs problèmes.
Ce livre, il est sous forme de questions-réponses, sans spolier le livre, parce que j'incite les auditeurs à le lire. Vous abordez directement une question très intéressante: est-ce utile d'être anxieux?
Ça m'a semblé la première question la plus importante, parce qu'on a toujours l'idée que finalement il faudrait qu'on soit pas anxieux, jamais. Et en fait non, je pense que c'est utile d'être anxieux par moment, et que l'humanité ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui s'il n'y avait pas de l'anxiété.
Alors si je comprends bien, c'est normal d'être un peu anxieux, voire naturel. Et en matière d'anxiété, il existe deux catégories. On a celle considérée comme normale et celle considérée comme pathologique. Expliquez-nous.
Lorsque l'anxiété nous aide à avancer, je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait positif. Et lorsqu'elle est à minima, ça peut être quelque chose de constructif. Par contre, lorsqu'elle devient inhibante, perturbante dans la vie de tous les jours, elle peut complètement gâcher la vie de quelqu'un.
Mais comment savoir quand on est anxieux? Comment on le réalise? Est-ce qu'il y a des symptômes courants?
Les symptômes les plus courants, ça va être effectivement les sensations somatiques, physiques. C'est pour ça que les médicaments marchent pas forcément bien, parce que ces sensations-là, c'est celles qui gênent le plus, et les médicaments marchent plus sur les cognitions, les pensées, que sur les sensations. Par exemple, l'oppression thoracique, si on respire par le ventre, on va davantage une respiration abdominoventrale et en même temps thoracique, on va davantage relâcher tous ces muscles et donc diminuer la tension. C'est quelque chose qu'on aura dont on aura un effet immédiat.
C'est quand on sent un petit peu, par exemple, son cœur battre très vite, avoir un petit peu un nœud dans le ventre, ce sont ces symptômes-là dont
les symptômes les plus fréquents, effectivement. L'accélération du cœur, la boule dans la gorge, le creux d'estomac, la boule là, l'oppression, on se sent oppressé. Ça, ce sont des symptômes très, très fréquents.
Et quand on décrit l'anxiété, ça ressemble un peu au stress, à l'angoisse. Comment on distingue tout ça? C'est un peu compliqué.
Oui, oui. Alors, entre anxiété et angoisse, aujourd'hui, on fait pas tellement de différence. Hein. L'angoisse était plus l'expression somatique de l'anxiété, et ce qu'on appelait anxiété, c'était plus au niveau, j'allais dire, intellectuel. Psychologique. Par contre, entre le stress et l'anxiété, c'est deux choses totalement différentes qu'on peut rencontrer en même temps. Le stress, c'est une réponse de l'organisme face à une n'importe quelle stimulation qui pourrait être négative. Ça peut être une grippe, ça peut être n'importe quoi. On va avoir une réaction de stress. Hein, ça peut être une inquiétude aussi. Et puis, l'anxiété, c'est plus quelque chose qui va être de l'ordre quand même psychologique.
Alors pour parler de cette anxiété, rien de mieux que nos auditeurs qui sont nombreux à nous appeler aujourd'hui, docteur. On va tout de suite prendre la première auditrice en ligne. C'est Leïsa qui nous appelle de Lomé au Togo. Leïsa, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Donc moi je souffre de hémétophobie. Et souvent, quand je dis aux gens qui sont dans mon entourage, ben, ils se mettent à rire quand je leur explique ce que c'est. Et ça peut paraître ridicule d'avoir peur des vomissements, peur de vomir. Mais dans mon cas, c'est plus la peur que quelqu'un vomisse et pas vraiment le vomissement en soi. Donc, c'est l'anticipation de la situation. Et donc, quand je me trouve dans une situation comme ça, j'ai des crises de panique et il faut absolument que je me retire de la situation. Je donne un exemple. Si je suis dans un bus et qu'il y a plusieurs personnes autour de moi et je vois un enfant et je me dis, ah, cet enfant va avoir le mal des transports, je vais quitter le bus, je vais m'arrêter au prochain arrêt, je descends. Même si le prochain bus va passer d'ici 3 heures, je prends un autre bus ou je vais à pied, mais je ne reste pas dans le bus avec cette personne qui a une menace pour moi. Donc, je voudrais poser une question, c'est que je sais qu'il y a plusieurs traitements, et un des traitements qu'on m'a proposé, c'est d'affronter la peur. Mais comment on fait pour affronter la peur? Enfin, j'ai peur d'affronter ma peur.
J'entends bien. C'est vrai que quelque part le fait d'éviter son anxiété ne fait que la renforcer. Et plus on évitera, plus on aura tendance à avoir peur d'avoir peur. Donc la façon de traiter son anxiété, c'est effectivement en général de l'affronter petit à petit, ben, peut-être en restant un peu plus longtemps dans le car, face à la situation qui nous angoisse. Et de plus en plus, en augmentant la difficulté. Ça, c'est la meilleure façon de se débarrasser de son anxiété. Et si on évite de l'affronter, elle va avoir tendance à augmenter et à s'exagérer.
Et Leïsa, j'aimerais vous poser une question. Quand, lorsque justement vous êtes angoissée à l'idée de voir ce vomi ou ces personnes qui vont bientôt vomir, en tout cas vous les suspectez de futurs vomissements, qu'est-ce qui se passe concrètement dans votre corps?
Ok, donc des fourmillements partout, et puis le cœur qui bat vite, la respiration, je commence à perdre la respiration, j'ai l'impression que j'étouffe. Et ça fait une sensation très bizarre, comme si le temps s'arrêtait. Je sais pas, tout est lent autour de moi et j'ai l'impression de sortir de mon corps. Et généralement, si je peux vraiment pas sortir de la situation, soit je prends un antiémétique, je mets mes écouteurs avec de la musique et j'essaie de me concentrer sur ma respiration. Et voilà. Mais ça m'est arrivé une fois pendant que j'étais en train de conduire et j'ai dû me garer. Mon mari a dû prendre le volant parce que ça n'allait pas. Donc c'est pas toujours gérable.
Et est-ce que vous avez déjà consulté un médecin autour de ces problématiques?
Non, parce que ça fait peur. Parce que je sais qu'il va me proposer d'affronter ça et ça me terrorise.
Docteur Jean-Luc Duché, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut affronter ces peurs?
Absolument. Tant qu'on les affrontera pas, en général, elles nous envahiront de plus en plus. Mais il faut pas le faire de manière trop forte. On peut le faire effectivement en exposition, ce qu'on appelle exposition progressive. C'est-à-dire, on augmente un petit peu la
étape
difficulté.
Par étape.
Voilà, étape par étape. Il faut pas que ce soit quelque chose d'impossible à affronter. Ce qui me semble intéressant aussi, c'est les symptômes qu'elle décrit. Mm-hmm. Parce qu'ils sont assez classiques. Et ça ressemble un peu à une attaque de panique. Mm-hmm. La question qu'il faudrait se poser, c'est qu'est-ce qui fait que l'idée de vomir soit aussi importante que ça pour vous?
Oui, je ne sais pas, sincèrement. C'est vrai que quand j'étais petite, vers les 8-9 ans, on a eu un accident comme ça dans un car, en colonie de vacances. Une petite fille a été malade comme un... Oh, c'était horrible dans le car. Mais même avant ça, je n'aimais pas. Et, je n'aimais pas ça et... Juste pour que vous sachiez, j'ai passé à peu près 18 ans sans vomir une seule fois. Toujours en train de gérer pour pas que ça arrive, parce que je préfère être malade pendant 3 jours et ne pas vomir que d'affronter ça.
Et alors si ça arrivait, qu'est-ce que ça représenterait pour vous? C'est un danger?
Non, parce qu'en fait ça m'est quand même arrivé une fois pendant la grossesse. Et je me suis rendu compte qu'après que ça arrivait, c'était pas si grave.
Donc, voilà,
c'est une première étape.
Voilà, peut-être. Ça c'est quelque chose de très important.
Mais l'acte en soi n'est pas grave, mais c'est l'anticipation, c'est au secours, ça va arriver. Et c'est ce moment-là, ce qui vient avant qui me rend folle.
Et c'est ça l'anxiété. Mais la situation, quand vous êtes face à la situation, vous apercevez que finalement c'est pas grave, il n'y a pas de danger. Voire même, il faut savoir que le fait de vomir est un acte qui peut sauver la vie. Si vous avez absorbé des choses dangereuses pour votre santé, il vaut mieux les éliminer avant qu'elles commencent à diffuser dans votre corps. Mmh. Donc le fait qu'on puisse vomir n'est pas un acte forcément anti-naturel.
En tout cas, essayer d'affronter ces peurs, finalement, c'est ce qu'on pourrait conseiller.
D'une manière générale, l'anxiété, si on la laisse s'installer,
elle va prendre le dessus. Merci beaucoup pour cet appel et surtout bon courage, en tout cas. Docteur Jean-Luc Duché, Lisa parlait de se concentrer sur sa respiration.
Oui.
Est-ce que c'est aussi un moyen d'essayer de vaincre cette
Alors,
peur?
La respiration abdominale, en gonflant bien le ventre, mais il faut bien le faire. Ça, c'est très important. Il ne faut pas le faire trop rapidement.
Là, on est à la radio, mais c'est possible d'expliquer un petit peu?
Il faut commencer en gonflant le bas du ventre, en prenant comme si on voulait prendre de l'air dans le bas du ventre, ce qui permet de descendre le diaphragme puisqu'il est comme aspiré à ce moment-là. Et puis ensuite, on va remonter en essayant de gonfler le thorax le plus possible, en prenant de l'air toujours, et toujours en respirant par le nez, jamais par la bouche. Ce que font certaines personnes, c'est de respirer à l'inspiration ou à l'expiration par la bouche. Ça aurait plutôt tendance à augmenter l'anxiété. Donc il faut le faire lentement, de façon à ce que les choses soient pas trop pénibles, mais il faut le faire de manière assez importante et il faut s'entraîner, parce que si on s'entraîne pas avant, on n'arrivera pas à le faire en situation. C'est une évidence.
Merci pour ces conseils. On va continuer de prendre en ligne nos auditeurs. Rennes nous appelle de Yaoundé au Cameroun. Rennes, bonjour.
Bonjour.
Rennes, on vous écoute.
Oui, mon problème est que je suis quelqu'un de très timide et je suis souvent très distant des autres. Et ce qui fait que je me sens toujours isolée. On me reproche toujours cela, de changer. J'essaie, mais je n'arrive pas. Et ce qui fait que j'exprime toujours cela par la violence et deux fois les envies de suicide. Donc, j'aimerais que...
Alors, on n'entend pas très bien, Rennes, la ligne n'est pas très bonne, mais je vais me permettre de reposer un petit peu sa question. Docteur Jean-Luc Duché, Rennes nous expliquait qu'elle est très très timide, elle a du mal à s'exprimer en public et qu'elle perd parfois ses mots lorsqu'elle est en public. Et elle se demande, est-ce qu'il existe un moyen pour surmonter cette anxiété? Comment vaincre sa timidité?
Alors là, on est dans une forme d'anxiété qu'on appelle l'anxiété sociale. Il y a bien sûr des techniques cognitivo-comportementales qui marchent bien par rapport à cette anxiété. Donc, je pense intéressant peut-être qu'elle puisse consulter un spécialiste, psychologue, psychiatre qui pratique ces techniques.
Oui.
En plus, ce qu'elle nous a dit, c'est que quelque part, il y avait aussi par moments de la dépression, qu'elle avait même des idées noires, voire de suicide. Et il faut savoir qu'effectivement, l'anxiété est quelque chose qui peut amener à la dépression, en particulier l'anxiété sociale. Si on fait un épisode dépressif une fois dans sa vie, on a une chance sur deux d'en refaire. Mais si on a une anxiété sociale, on est à 95% de risque de rechute. Donc l'anxiété sociale fait vraiment le lit de la dépression, et c'est dommage parce que c'est quelque chose dont on peut assez facilement se débarrasser.
Reine nous expliquait aussi qu'elle était agressive et parfois violente envers sa famille, les membres de sa famille.
Oui. Alors, c'est dans l'anxiété sociale, on va voir des formes passives, c'est-à-dire les gens qui disent jamais rien, qui s'excusent alors que c'est quelqu'un qui leur a écrasé le pied, par exemple, bousculé. Et puis, il y a la forme agressive, c'est-à-dire que les gens qui se répondent de manière plus forte, comme s'ils essayaient de compenser, de surcompenser, donc ça leur demande des efforts. Et ils sont maladroits parce qu'ils sont dans l'ambivalence, je le fais, je le fais pas. Mais je peux pas ne pas le faire à un moment, donc la façon de le faire va être plus agressive.
Et là, on parle de l'entourage, justement. Quels sont les mots à dire ou les gestes à avoir et les choses à ne surtout pas faire quand on est face à une personne anxieuse?
J'allais dire, c'est de montrer une intolérance ou un rejet par rapport à cette personne. Je crois que quelque part, l'anxiété peut être une souffrance et une maladie. Je crois que effectivement, c'est peut-être pas visible comme si on a une jambe cassée, mais la souffrance, elle, est bien réelle.
Parce que vivre au quotidien avec quelqu'un d'anxieux, ça peut s'avérer compliqué, voire dans les cas les plus extrêmes, handicaper une relation.
Et parfois la favoriser. Parce que certaines personnes vont, par exemple, on le voit dans l'agoraphobie, le fait que quelqu'un, le conjoint ou quelqu'un aide, la personne aidante, va avoir un sentiment d'être utile à l'autre. Et là, il se construit une relation qui peut être ennuyeuse, parce que quelque part, la relation va finir par s'installer essentiellement sur la relation d'aide, et non plus sur une relation d'affection, ou beaucoup moins. Donc, c'est pas forcément non plus une bonne chose.
Est-ce que parler de cette angoisse, mettre un mot sur cette angoisse aide?
Tout à fait. Déjà de savoir que ça existe, qu'il y a beaucoup de gens. L'anxiété sociale est quelque chose très fréquent. Hein. On parle même souvent de phobie sociale. Hein. C'est-à-dire, c'est la peur des autres, c'est la peur du jugement des autres, de ce que les autres vont penser, alors que souvent les autres, ben, finalement, ne pensent pas forcément quelque chose de négatif de nous.
Alors, les auditeurs sont nombreux à vouloir vous poser des questions. Docteur, on va prendre en ligne Joël qui nous appelle de Creil en France.
Allô ?
Bonjour Joël.
Oui, bonjour Tara. Bonjour docteur.
Bonjour.
Alors, moi je suis maman de 3 filles, et en particulier 2 adolescentes. Et le problème c'est que depuis l'année dernière, la plus grande, c'est-à-dire celle qui a 16 ans, j'ai commencé à la laisser sortir avec ses amis pour aller à des concerts, des anniversaires. Le problème c'est que dès qu'elle est dans le train, c'est-à-dire hors de la maison, j'arrête pas d'appeler pour savoir si elle est arrivée, j'arrête pas d'envoyer des textos. Et le pire, c'est quand elle revient, c'est-à-dire elle est en route pour la maison, il suffit qu'elle me dise « Maman, je suis déchargée », alors là, c'est la panique totale. Je vais pas arrêter d'envoyer des messages, alors qu'elle m'a dit qu'elle est déchargée. Je vais pas arrêter d'appeler, et j'ai du mal à me contrôler. Alors que de nature, je ne suis pas quelqu'un d'angoissé. Mais c'est juste pour mes enfants. Et je me dis, elles sont 3, et c'est que la première. Je ne sais pas comment faire. Et du coup, je suis gênée parce que des fois, je l'attends au coin de la rue. Et quand elle me voit, elle me dit, mais maman, c'est pas possible, t'abuses. Je t'ai dit que j'étais déchargée, je suis en train d'arriver. Je lui dis, oui, je sais, mais tu ne m'as pas répondu. Elle dit, mais comment tu veux que je... Donc du coup, je suis un petit peu gênée. Elle me dit, mais maman... Je sais pas comment arrêter ça. Et des fois, en attendant, je prends du thé pour calmer mon angoisse. Au pire des cas, des fois, j'écoute de la musique. Mais c'est pas trop ça. Et à la fin, je finis par prendre un Doliprane tant que je l'ai pas vu rentrer. Donc, ma question, c'est déjà comment me comporter déjà face à mes enfants pour ne pas perdre la face, on dirait comme ça. Et pour moi-même parce que c'est quelque chose qui me ronge énormément. Je me dis, je n'arrive pas à me maîtriser pour mes enfants.
C'est très intéressant, hein, le témoignage et la question de Joël, parce que peut-être aussi de nombreux parents hein, s'inquiètent autour de la sécurité de leurs enfants. Là, on a le sentiment que c'est un peu plus poussé.
Voilà, ça devient excessif par rapport à ce que les enfants ressentent et aussi par rapport à ce que la maman sent bien que il vaudrait mieux essayer de laisser un peu plus les enfants et de leur faire confiance. On est dans une forme d'anxiété qui est l'anxiété, ce qu'on appelle l'anxiété généralisée, avec le fait de se faire du souci de manière excessive. Pour tout et rien, et là, de manière générale, c'est plutôt rien, puisque quelque part, il n'y a pas de problème. Et effectivement, dès que la ligne téléphonique est coupée, puisque le téléphone est déchargé, à ce moment-là, c'est l'angoisse, puisque je n'ai plus de possibilité de me réassurer. Le souci, c'est qu'en faisant ça, on va créer aussi l'anxiété chez les enfants. Mmh. Et donc ça, c'est certainement pas ce que veut cette maman. Et le deuxième souci, c'est que quelque part, cette fille aura du mal à prendre confiance en elle, puisque sans arrêt, elle a l'impression que maman la surveille. Alors que, visiblement, il n'y a pas de problème majeur. Hein. C'est bien là où est la difficulté, c'est que on se trouve face à une situation où il n'y a aucun problème. Et c'est donc pour ça que ce n'est que de l'anxiété. Donc, alors j'ai écouté à un moment qu'elle disait qu'elle prenait du thé. Il faut savoir que la caféine et la théine peuvent augmenter l'anxiété dans certains cas. Donc, c'est peut-être pas ce qu'il faut prendre en priorité.
Donc là encore, quel exercice ou alors quel conseil on peut donner à Joël pour essayer de la rassurer ?
Alors, je pense que la meilleure solution, c'est d'essayer encore d'éviter de le faire. Hein, comme d'essayer de ne plus téléphoner. Peut-être de téléphoner une fois sur deux, un appel sur deux. Si elle devait téléphoner toutes les 10 minutes, que ce soit peut-être tous les quarts d'heure, toutes les 20 minutes. Essayer d'espacer de plus en plus ce délai. L'autre solution, ça serait peut-être qu'elle, pendant que sa fille, elle sait sa fille dehors, eh bien, elle se programme des choses à faire. Ce qui fait que, comme ça, ça va distraire son attention. Et petit à petit, elle verra que le temps a passé et qu'elle n'a pas appelé. Et je pense que petit à petit, elle va réussir à... C'est très important parce que pour les enfants, parce que quelque part, c'est vraiment leur avenir à eux qui se joue. Hein, c'est compliqué pour la maman, mais ça va être compliqué aussi pour les enfants.
Elle peut transmettre cette angoisse, ce qui peut être
absolument
compliqué.
Oui. Si l'enfant a une tendance à être anxieuse, probablement qu'elle va rentrer dans ce système. Là, la fille commence à donner des signes, mais maman, tu exagères. Et, mais c'est bien, parce que quelque part, il faut l'encourager à dire ça. Pour la maman, d'abord, parce que elle en a conscience, et donc ça va l'aider à se dire, bon, il faut que je prenne sur moi. Il faut prendre sur soi.
Joël, est-ce que vous avez entendu les recommandations du docteur Duché ?
Oui, tout à fait. Ah là là. Bon,
courage ! Courage ! On va y arriver.
Mais programmez des activités, des choses à faire pendant que votre fille est dehors.
Oui, mais j'essaye de lire, d'écouter un peu.
Oh, mais de lire, c'est difficile parce que de lire, l'attention va repartir tout de suite. Non, il faut mieux une
Exactement.
Activité plutôt physique, active. À la D'accord, limite, aller faire ses courses.
Aller courir,
très bien.
Et c'est bon pour la santé.
Et en plus. Oui.
En tout cas, merci pour votre appel, Joël. On a Senghor qui nous a envoyé un message sur notre page Facebook. Quel est l'impact de l'anxiété sur le développement de l'être humain, docteur ?
C'est certainement un impact négatif, obligatoirement. Mmh. Je pense que quelque part, on peut imaginer même que ça diminue la qualité de vie, puisque l'anxiété peut amener la dépression. Donc, on voit bien les choses, comment elles peuvent se passer. Et puis, peut-être même qu'on peut estimer que ça diminue la longueur de la vie chez certaines personnes, comme le stress peut le faire.
Donc très négatif pour la santé.
Certainement pas positif.
On a Yagouba qui nous appelle en ligne de Conakry. Yagouba, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous avez un témoignage et des questions pour nous, on vous écoute.
Moi, mon problème est que je n'ose pas les animaux. Par exemple, le lion, le serpent, le chat, tout ce qui est vraiment animal sauvage, je n'ose pas. Le serpent particulièrement, lorsque c'est tout petit, mon papa avait dit un gros serpent. Lorsqu'il a voulu prendre le bois avec lequel il avait été le soulever pour monter au public, du coup, moi j'ai pris la fuite et puis voilà. qu'il m'avait rattrapé à quelque distance. Ça, c'est un problème qui m'arrive, même les documentaires à la télé, je n'arrive pas à pouvoir regarder, par exemple, quand il s'agit de voir les lions, la panthère, voilà, excepté peut-être les oiseaux, voilà, il n'y a pas de problème là, la vache, il n'y a pas de problème, la poule, tout ça, quoi. Mais dès que je vois les autres là, même les souris, le chat, les chiens, vraiment j'ai la chair de poule. En plus, j'ai un autre problème aussi, de répétition. Quand par exemple je suis prêt pour me coucher la nuit, je peux fermer la porte, aller me coucher, revenir vérifier une fois, est-ce que j'avais fermé, deux fois, voire trois fois. C'est le même cas quand il s'agit peut-être de compter un montant ici, de l'argent, je compte une fois, deux fois, voire quatre fois encore le même montant. Il n'y arrive pas. Donc je voudrais savoir, est-ce que ce phénomène-là, peut-on qualifier ce phénomène comme étant une maladie?
Alors oui, il s'agit de ce qu'on appelle de l'angoisse, et particulièrement donc par rapport au lion, par rapport aux autres animaux, une phobie des animaux. La solution est probablement d'essayer de s'exposer petit à petit à des animaux. D'abord, dans ce que vous dites, il y a des animaux qui sont dangereux éventuellement. Hein. Je pense qu'effectivement, il y a des serpents qui sont dangereux. Je pense que les lions, il vaut peut-être pas trop s'en approcher si on n'est pas un bon chasseur. Donc je pense que là, il y a une réelle sujet d'angoisse. Par contre, les chats, les chiens, surtout s'ils sont domestiques, ne sont pas forcément dangereux. Donc la solution, elle pourrait être effectivement d'essayer de s'approcher petit à petit de ces animaux non dangereux. Peut-être que vous connaissez, peut-être que chez le voisin, parce que j'imagine que chez vous, il n'y en a pas, de se rapprocher un petit peu, d'essayer de rester dans le, peut-être dans la même pièce qu'eux, peut-être ensuite essayer de se rapprocher de plus en plus, mais ça en plusieurs étapes et sur plusieurs jours. L'idée de regarder aussi, parce que vous avez parlé que quand il y a des lions à la télé, vous ne les regardez pas, alors qu'il n'y a réellement aucun risque, je pense que vous serez d'accord avec moi. Donc là, c'est peut-être effectivement de s'exposer en regardant éventuellement des photos de lions, en essayant de les regarder de plus en plus longtemps, ces photos, et puis éventuellement des films à la télévision, de façon justement à s'exposer à ces situations et à se dire là c'est sans danger, donc j'ai pas de risque et donc je peux les regarder tranquillement.
Dans le livre, vous listez d'ailleurs pas mal de ces peurs autour de phobies, des chats, des insectes, des abeilles, c'est finalement courant?
Tout peut faire l'objet d'une peur. Oui, c'est très courant. Il y a plein de gens. Une des phobies, du reste, qu'on ne considère plus vraiment comme une phobie, c'est la phobie des araignées. Parce qu'il y a tellement de gens qui en ont peur que, voilà.
Mais les serpents aussi.
Alors les serpents.
Je serais presque phobique, en tout cas.
Voilà, mais je pense qu'il y a des animaux dangereux dont la phobie, et là on voit l'intérêt éventuellement de l'anxiété s'il n'est pas paralysante, c'est de nous permettre d'être prudents de façon à ne pas se mettre dans une situation où on pourrait être attaqué par un serpent qui pourrait être forcément, enfin éventuellement, venimeux.
Yacouba, est-ce que vous avez d'autres questions à poser au docteur Duché?
Oui, j'ai une autre question à poser. Cette maladie est-elle héréditaire? Si oui, sinon, quelles sont les causes?
Alors, on n'a pas très bien entendu, mais je vais me permettre de répondre, de répéter votre question. Il demande si c'est une maladie héréditaire, Yacouba, cette anxiété, cette phobie. Est-ce qu'il a été transmis par ses parents, peut-être?
Alors, c'est pas héréditaire au sens génétique du terme, encore qu'il puisse y avoir éventuellement des facteurs génétiques qui favorisent, mais c'est certainement, si j'ai des parents qui sont anxieux, si j'ai une maman qui a peur des araignées, l'enfant aura facilement peur des araignées, si j'ai une maman qui a peur des souris, bah, ça va être... pareil. Là, en plus, si j'ai bien compris, vous avez eu une expérience un petit peu traumatisante lorsque vous étiez petit, puisque votre papa a pris un serpent et vous avez eu peur de ce qui s'est passé, puisque vous avez fui. Et certainement que cet événement a été traumatisant et reste dans votre mémoire. Probablement qu'avant, vous aviez déjà une certaine appréhension. Peut-être à cause de récits qui avaient été faits autour de vous et qui vous avaient fait prendre conscience de la dangerosité de ces animaux. Alors il y a un autre élément dont il a parlé, et c'est de vérifier, si j'ai bien compris, les portes,
oui,
recompter
oui,
des
oui,
choses.
C'est...
Voilà. Là on est plus dans ce qu'on appelle un trouble obsessionnel, compulsif, c'est-à-dire pas très grave, puisque quelque part il n'a pas l'air d'y passer trop de temps.
Mais c'est quand même répétitif. Il l'a dit quand même 4 fois, vérifier s'il n'y avait rien dans la chambre.
Ah oui, quand même. Donc ça, je suis désolé, j'avais pas entendu. Alors, on est déjà dans un toc, qui est un peu prononcé. Voilà, qui effectivement. Donc ça, faut éviter. Si c'est 4 fois, on essaye de faire 3 fois. Toujours le même système. Il faut affronter son angoisse. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent les gens qui affrontent leur angoisse, ils ont peur que cette angoisse devienne incontrôlable. Le plus souvent, même si on ne fait rien, même si c'est la panique, l'anxiété, au bout d'un certain temps, qui va paraître très 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 long, va baisser et s'estomper. Donc, et le pire du pire, par exemple, les gens qui font des attaques de panique ont peur de cette angoisse, qui se disent mais si ça va plus loin, comment je vais gérer, ça va être ingérable. Mais souvent ils connaissent le pire, donc ça n'ira pas forcément beaucoup plus haut. Et de toute façon, au bout d'un certain temps, ça va automatiquement s'atténuer.
S'apaiser. Merci beaucoup Yacouba pour votre appel.
Priorité santé sur RFI.
Et nous retrouvons en Tunisie, professeur Raja Laban, psychiatre, professeur de psychiatrie à la faculté de médecine de Tunis, en Tunisie, et ancienne présidente de la Société tunisienne de psychiatrie. Bonjour, professeur Raja Laban.
Oui, bonjour.
Alors, j'imagine que les Tunisiens sont anxieux, un peu comme tout le monde. Est-ce que les Tunisiens viennent vous voir pour cette question en vous disant « je suis anxieux, professeur ».
Oui, alors bien sûr, mais vous vous intéressez toujours aux particularités un petit peu culturelles, locales, des manifestations psy. Mmh. Alors je vous dirais qu'en Tunisie, nous avons beaucoup d'expressions somatiques de l'anxiété. Vous savez, ces attaques de panique qui se répètent et qui se manifestent essentiellement par des manifestations cardiaques, gastriques, pulmonaires. Alors, ces personnes ont ces crises, et c'est la panique, parce qu'il y a la sensation de mourir. Vous savez, quand on étouffe, ou qu'on a des palpitations, le cœur qui s'emballe, cette sensation de mort imminente, bon, vont vers les urgences de médecine, et commencent à consulter de manière répétée. Ça déclenche évidemment des explorations, des bilans de toutes sortes, et une panique générale, que ce soit au sein de la famille. Et au bout du compte, tout le monde se lasse de ces manifestations. On traite souvent ces personnes d'hystériques, d'ailleurs. Et finalement, après moult souffrances et moult stigmatisations, parce qu'on dit « oh là là, elle est folle, elle est hystérique » et tout ça, finissent par être diagnostiquées troubles paniques. Donc voilà, l'expression somatique est trompeuse et il faut absolument faire très attention. Bien sûr, il faut explorer un minimum, mais ne pas tarder à mettre une étiquette de trouble anxieux sur ces crises.
Et est-ce qu'il y a un trouble anxieux qui est plus récurrent que d'autres? Est-ce que vous avez constaté qu'il y avait des crises plus fréquentes que d'autres?
Oui, alors beaucoup les manifestations cardiaques, les pseudo-infarctus, vous voyez, c'est assez courant, ou les pseudo-asthmes, on a des manifestations de ce type. Alors, bon, je dois vous dire aussi que le trouble qu'on observe le plus, c'est l'anxiété généralisée. C'est l'anxiété chronique qui survient chez certaines personnes, mais ça c'est partagé dans toutes les cultures. Des personnes qui ont eu dans l'enfance des liens insécures, qui ont été exposées à des traumatismes, peut-être à des abus, à des maltraitances, sont plus vulnérables justement pour toute éclosion de troubles anxieux à l'adolescence et à l'âge adulte. Donc, et nous avons, partout on a les mêmes manifestations d'angoisse, mais je vais vous dire une particularité de la Tunisie, c'est qu'après la entre guillemets révolution de 2011, nous avons observé une recrudescence de toutes les manifestations anxieuses, justement parce que les personnes qui étaient habituées à vivre dans un milieu structuré, une dictature, ça met des limites, ça rassure, ça sécurise beaucoup, et puis tout d'un coup, exposées à la démocratie, si vous voulez, il y a eu une perte de repères, une perte de sens, la recherche d'une identité, la peur de ne pas être sécurisée, puis il y a eu, vous savez, ces menaces d'attentats, de terrorisme et tout ça, fait que nous avons actuellement beaucoup de consultes, beaucoup plus de consultations pour des manifestations anxieuses, et les gens viennent. Il y a en plus le marasme un petit peu économique, les difficultés, un chamboulement social qui fait que il y a plus d'anxiété. Et alors elle s'exprime, comme on le sait, plus chez la femme, parce que là aussi on observe chez nous, chez les hommes, beaucoup de consommation d'alcool, qui est un excellent anxiolytique, entre guillemets là aussi, parce que les effets d'un abus d'alcool sont encore plus délétères que les effets de l'anxiété, et puis de la consommation de drogues sédatives, notamment le cannabis, là aussi utilisé dans un but d'automédication, et qui expose à d'autres complications psychiatriques. Donc vous voyez que nous sommes confrontés, mais avec tous les troubles anxieux actuellement dans notre pays, compte tenu de notre situation.
De la situation politique sociale actuellement en Tunisie. Oui, professeur Rajal Abane, peut-être, on parle d'anxiété depuis le début de l'émission. Que souhaitez-vous que nos auditeurs retiennent à ce sujet?
L'anxiété, écoutez, c'est une émotion humaine. Elle est pas toujours mauvaise, elle peut être bonne parce que elle pousse à la créativité, elle pousse au dépassement de soi. Mm-hmm. Elle est intéressante, l'anxiété en elle-même. Si vous voulez, quand elle ne devient pas, elle déborde pas les mécanismes de l'individu, quand elle ne devient pas paralysante, terrorisante, quelque part, un niveau minimum d'anxiété est nécessaire pour le dépassement de soi. Mais vous savez, l'anxiété aussi est liée à la perte. On a la perte de l'intégrité physique, la perte de la santé, la perte des êtres chers. Il faut savoir intégrer la notion de perte. Moi, je dis souvent qu'il y a une conception un peu philosophique de l'anxiété. Et là, les philosophes grecs, vous savez, les stoïciens ont beaucoup appréhender cette peur existentielle, cette angoisse, en disant qu'il y a des choses qui dépendent de nous et des choses qui ne dépendent pas de nous, et que nous devons aussi nous préparer à la mort, nous préparer à la perte, nous préparer aux événements qui vont nous frustrer, nous spolier de notre confort, de notre bien-être, des êtres chers qui nous entourent, voyez.
Merci beaucoup, professeur Rajal Abane, pour toutes ces précisions.
Priorité santé sur RFI.
Docteur Jean-Luc Duché, pour conclure, puisqu'on arrive à la fin de l'émission, en quelques mots, vous parlez du bonheur à la fin de votre livre. Donnez-nous un conseil pour être heureux.
Arrêtez de s'angoisser de manière excessive.
Ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, docteur Jean Duché. La lutte contre le paludisme est au point mort, affirme l'OMS dans son rapport publié le 19 novembre. On en parle avec le docteur Pascal Ringwald, qui est le coordinateur de l'unité de la résistance au département paludisme de l'Organisation mondiale de la santé. Bonjour docteur.
Bonjour.
Alors, l'épidémie semble contenue, le nombre de nouveaux cas stagne, le constat semble est en demi-teinte. Les trois dernières années, la lutte a été plutôt positive, mais comment expliquer ce phénomène qui est expliqué dans le rapport du 19 novembre ?
Oui, vous avez raison. Mais si vous voulez, si on prend un peu de recul par rapport à ce qui a été acquis depuis le début des années 2000, il y a quand même eu des progrès majeurs dans la lutte contre le paludisme. On a vu une réduction du nombre de cas et du nombre de morts, surtout en Afrique, sur toutes ces années. Et puis effectivement, comme vous le signalez, sur les deux ou trois dernières années, on voit une stagnation et éventuellement une légère augmentation. Au total, on estime à peu près le nombre de cas qui est à 219 millions, avec une mortalité maintenant de 435 000 cas. Et ce qu'on voit dans l'analyse du rapport, c'est qu'il y a surtout 11 pays, dont 10 pays africains, qui sont les plus touchés. Et à eux seuls représentent 151 millions des 219 millions de cas et 275 000 décès sur les 435 000 décès de manière mondiale.
Quels enseignements tirer justement de ce constat, 10 pays africains sur les 11 les plus touchés?
Pardon, j'ai pas entendu, excusez-moi.
Le nombre de cas de paludisme a augmenté entre 2016 et 2017, justement sur ces 11 pays les plus touchés dans le monde. Sur les 11, il y en a 10 qui sont africains. Quels enseignements tirer de ce constat ?
Alors, ce qui se passe, c'est qu'on se rend compte que la couverture des différents outils que nous avons à notre disposition, qui sont soit des outils de prévention, soit des outils de traitement, l'accès n'est pas optimal. Alors, à titre d'exemple, on a moins de la moitié de la population qui est à risque de paludisme, qui dorme sous une moustiquaire. Vous avez seulement une femme sur cinq en Afrique qui prend les trois doses d'un médicament qui pourrait prévenir le paludisme au cours de la grossesse. Vous avez un peu moins de la moitié des enfants qui ont une fièvre en Afrique qui sont conduits à une consultation par un prestataire médical qualifié. Donc il y a un problème d'accès aux différents outils disponibles aujourd'hui.
Et dans votre rapport, il y a aussi certains pays africains comme l'Éthiopie et le Rwanda qui s'en sortent mieux. Des efforts ont été amorcés dans ces pays. Qu'est-ce qui a plus fonctionné ?
Écoutez, je ne connais pas très bien leur mode de fonctionnement, mais effectivement, c'est très intéressant de voir que l'Éthiopie et le Rwanda ont une légère diminution. Il est aussi très intéressant de constater qu'il y a plusieurs pays africains qui tendent vers l'élimination, surtout dans le sud et dans certaines îles. Je pense qu'ils ont peut-être plus la capacité ou ils ont plus de financement, une meilleure gestion des financements qui leur permet d'arriver à des résultats plus rapides.
Et on a aussi la question de la résistance accrue aux médicaments qui se posent avec ces antipaludiques, notamment en Afrique subsaharienne. Est-il inquiétant de voir cette pharmacorésistance autour du paludisme ?
Alors là, je vous arrête, la résistance du paludisme aux différents médicaments n'est visible qu'en Asie du Sud-Est. Et en Asie du Sud-Est, on a fait d'énormes progrès, comme vous le savez peut-être. On a lancé un plan d'élimination du paludisme en Asie du Sud-Est, justement à cause des souches multirésistantes. Et pour l'instant, le programme d'élimination en Asie du Sud-Est passe très bien. En Afrique, on n'a pas à faire face à des problèmes de résistance. Ce n'est pas la résistance comme à l'époque de la chloroquine, où il y avait une augmentation de la mortalité en Afrique chez les petits-enfants. Aujourd'hui, on ne voit pas de résistance ni à l'artémisinine, ni aux médicaments partenaires. Et donc, ce n'est pas un problème de résistance qui est à l'origine de l'augmentation des cas. Il n'y a pas eu d'augmentation de mortalité en Afrique, mais ce n'est pas la résistance qui est à l'origine de l'augmentation des cas en Afrique.
Et peut-être que les financements sont à l'origine de ce problème.
Les financements sont restés stables à travers toutes les années. C'est peut-être une gestion des financements qu'il faudrait revoir. Il faudrait peut-être voir comment mieux utiliser les financements, comment arriver à ce que les partenaires collaborent d'une manière plus collégiale autour d'un programme qui est établi par les pays. Je pense qu'il faudrait plutôt voir ça de ce côté, mais il n'y a pas eu de réduction. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si on veut avoir un impact majeur sur les 10 pays dont je parlais tout à l'heure, il faudrait absolument avoir des financements nouveaux et augmenter les ressources pour les pays, que ce soit par des donateurs ou que ce soit par des sources venant directement des pays.
Et on parle de 2,5 milliards d'euros annuels consacrés à cette maladie. Est-ce que c'est suffisant pour éradiquer le paludisme ?
Alors, il faut procéder par étapes. Vous avez déjà, dans un premier temps, on va parler d'élimination. Chaque pays élimine le palu. Et ensuite, une fois qu'on aura éliminé tous les pays, on pourra parler d'éradication, comme on a parlé d'éradication de la variole. Donc, on est pour l'instant, on essaye, d'un côté, les pays qui sont les plus avancés, on essaye d'arriver à une élimination. Et comme je vous le disais, on a de plus en plus de pays qui ont, et là je parle au niveau mondial, il y a de plus en plus de pays qui ont moins de 10 000 cas de paludisme, et il y a beaucoup de pays qui ont à peine 100 cas. Et puis à côté de ça, vous avez les pays qui portent un très lourd fardeau. Et donc il y a d'une part, il faut aider les pays à éliminer ce qui leur reste de paludisme, et d'autre part, les pays à haut fardeau, il faut leur aider à réduire le fardeau du paludisme. Donc il y a deux stratégies différentes. Et une fois qu'on aura réduit le fardeau dans les pays africains dont je parlais avant, on pourra parler d'élimination. Et quand on sera à un niveau mondial d'élimination, on pourra parler d'éradication.
En parlant d'élimination, en 2015, l'OMS s'était donné pour objectif de réduire de 40% la mortalité due au paludisme d'ici 2020. Est-ce que cet objectif semble réalisable ?
Pour l'instant, il n'a pas été réalisé, mais on a avec la nouvelle initiative qui a été lancé donc à Maputo en début de semaine par le directeur général de l'OMS avec, en collaboration avec Colbert Malaria. On va lancer un nouveau plan et on espère pouvoir rattraper le retard et aboutir aux objectifs qui ont été énumérés dans le programme mondial de lutte contre le paludisme.
Merci beaucoup, docteur Pascal Ringwald. Je rappelle que vous êtes coordinateur de l'unité de la résistance au département paludisme de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Et avant de clore cette émission, un mot sur la Société d'anesthésie et réanimation d'Afrique francophone qui tient son congrès actuellement à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. On en parle avec le docteur Philippe Mavongou. Bonjour, docteur.
Bonjour. Merci de nous donner cette occasion de parler d'anesthésie une fois de plus sur Radio France Internationale.
Justement, vous êtes membre du conseil d'administration et président du comité équipement de la Fédération Internationale des Sociétés d'Anesthésistes. Quel est l'objectif de ce congrès?
Je suis avec le président de la Société ivoirienne d'anesthésie et réanimation. Ça va être le 34e congrès de la Société d'anesthésie et réanimation d'Afrique francophone, qui est une des instances essentielles pour la formation des anesthésistes africains francophones. Vous savez qu'on a ce grand problème de ressources humaines sur les pays d'Afrique francophone en anesthésie. Et c'est vraiment l'organisme qui fait de gros efforts pour cette formation. On est 14 pays pour représenter d'Afrique francophone, plus de la francophonie. On a du Canada, la Belgique, la France qui sont présents, le Maghreb aussi.
Ce type de rencontre, vous venez de le dire, permet aussi de mettre en lumière les problèmes des ressources humaines en soins médicaux et paramédicaux. Quels sont-ils principalement?
Je vais passer la parole au professeur Brouillapo, qui est président de la société ivoirienne. Il vous en dira en outre des enseignants africains.
Bonjour madame, je suis le professeur Brouillapo, président de la société ivoirienne d'anesthésie et réanimation.
Bonjour.
Effectivement, le problème de ressources humaines est un des problèmes pour lesquels nous organisons chaque année ce congrès pour susciter des vocations. Vous savez peut-être qu'en Afrique, nous avons moins d'un anesthésiste pour 100 000 habitants. Et la Côte d'Ivoire, à peu près 150 médecins anesthésistes qui sont dans ce congrès actuellement pour renforcer les capacités, pour améliorer la prise en charge des patients en matière d'anesthésie.
Et qu'est-ce que vous comptez proposer à ce niveau?
Ce que nous proposons et ce que nous faisons, c'est d'abord la création des écoles de formation des anesthésistes, que ce soit des médecins anesthésistes ou des infirmiers anesthésistes, ce que nous faisons déjà. Mais au sorti de l'école, pour améliorer donc leur pratique, nous organisons ce genre de manifestation comme ce congrès qui a lieu actuellement.
Et vous allez élaborer un livre blanc. Qu'est-ce que vous allez faire après cette réunion?
Après cette réunion, on résume les résolutions justement du congrès qu'on transmet à nos autorités qui étaient là déjà hier à la cérémonie d'ouverture. On leur transmet donc nos propositions pour augmenter déjà le nombre de praticiens en anesthésie et puis pour leur proposer notre vision en matière de formation des anesthésistes.
Merci beaucoup. Priorité touche à sa fin. Merci à mon équipe, à C'est Tous, à Maké, Keïla, Sia, Rophélie Lassène, Baptiste Meunier, Juliette Bro et Didier Bleu. Merci à mon invité, le docteur Jean-Luc Duché, médecin psychiatre à Clermont-Ferrand, clinicien, psychothérapeute, enseignant, chercheur dans le champ de la dépression et de l'anxiété, auteur également de l'ouvrage « Vaincre son anxiété » par soi-même aux éditions Odile Jacob. Demain dans Priorité Santé, nous parlerons du sommeil et des rêves. Si vous voulez témoigner ou poser des questions, n'hésitez pas, le numéro de Priorité Santé, 33 1 84 22 75 75, 33 1 84 22 75 75. Il y a ici aussi notre page Facebook, n'hésitez pas à nous contacter.
C'était Priorité Santé avec Sunu Assurance. Célébrez nos 20 ans d'assurance en découvrant votre profil sur monbonprofil.com. Sunu Assurance, notre métier, l'assurance.